Europe 1, en balade avec Nicolas Bouzou. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. C'est avec un économiste que nous partons en balade aujourd'hui. Après avoir évoqué dimanche dernier les conséquences du Covid-19 sur le droit et la justice, c'était avec Éric Dupond-Moretti. Nous allons tâcher d'y voir plus clair sur les conséquences économiques de la pandémie avec Nicolas Bouzou, l'auteur de « Sagesse et folie du monde qui vient », du « Travail et l'avenir de l'homme » et de « L'innovation sauvera le monde ». Il nous a donné rendez-vous là où se trouvait jadis la Cour des miracles.
Frédéric Taddeï, en balade avec Nicolas Bouzou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Vous nous avez donné rendez-vous rue d'Amiette. On est à l'entrée de la Cour des Miracles, telle qu'elle existait au XVIIe siècle, sous Louis XIII et Louis XIV. À l'époque, on est entre la rue des Forges, la rue du Caire, la rue Saint-Sauveur. C'est un
sentier,
endroit tellement dangereux que les soldats n'osaient y entrer. Elle a été détruite en 1667. Alors pourquoi ici? Pourquoi cet endroit où régnaient les faux pèlerins, les faux malades?
Je suis en train de me rendre compte que c'est toujours une cuvette d'ailleurs, parce que c'est décrit comme une cuvette, si je me souviens bien, dans Victor Hugo.
Oui.
Et en fait, je me rends compte que ça descend toujours, donc on voit bien à peu près le.
Alors Victor Hugo avait situé la Cour des Miracles au Moyen-Âge, dans Notre-Dame de Paris,
Et
il avait romancé.
Ouais,
il s'inspirait de la Cour des Miracles qui existait au XVIIe siècle. Mais vous, qu'est-ce qui vous.
Non, mais ce qui me fascine complètement, c'est le progrès social. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer ce que c'était ce cauchemar absolu, où on laissait, mais dans un espèce de cloaque immonde, les plus pauvres, voilà. Et alors on appelait ça d'ailleurs la Cour des Miracles, parce que au fond, pour essayer de récupérer de l'argent, ces pauvres gens se faisaient passer pour des handicapés, des aveugles, des aveugles, des sourds-muets, et puis quand ils revenaient là le soir, il n'y avait plus d'handicapés, il n'y avait plus de sourds-muets. C'était une vie abominable qui reprenait, mais
qui
sans,
était très
sans le,
relativement
sans le handicap,
organisée. Bon. D'après les témoignages qu'on a, il y avait un roi de la Cour des Miracles, on appelait le Grand Coher, il y avait toute une hiérarchie avec des coquillards, des savants, des archisuppôts.
C'était très divers. Et alors, ce qui me fascine aussi, c'est qu'à l'entrée de ce quartier, qui est absolument fascinant d'ailleurs du point de vue économique, mais à l'entrée de la rue, là, au début de la rue d'Aboukir, il y a une magnifique peinture de Tintin et du capitaine Haddock qui s'embrassent sur la bouche. Là, je trouve quand même que. Voilà, je suis content de vivre au 21e siècle parce qu'on voit quand même les progrès extraordinaires de cette civilisation et notre modernité qu'on critique beaucoup et qu'on a beaucoup critiqué. Ben voilà, moi, je préfère vivre à un moment où on voit des homosexuels qui. Enfin, des homosexuels. D'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, où on peut voir des homosexuels qui s'embrassent sur la bouche et tout le monde trouve ça formidable, quasiment tout le monde trouve ça formidable. Et quand je compare ça à cette situation, c'est quand même pas si vieux, quoi. C'était il y a quelques siècles.
Enfin, oui, mais en même temps, on pourrait dire que la Cour des Miracles, c'était aussi le symbole d'un Paris qui était un véritable coupe-gorge. On se faisait escroquer, voler, assassiner à tous les coins de rue.
D'ailleurs, quand Louis XIV a voulu régler ça, il l'a fait d'une façon policière. Il l'a pas fait d'une façon sociale. C'est-à-dire que.
Il a rasé le quartier.
Oui, non, mais il a même nommé un responsable de la police à Paris, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Parce qu'il y avait
un responsable. Oui, c'est ça, c'était l'araignée, mais avant lui, il y avait un responsable de la justice et de la police. Et Louis XIV a trouvé que cette idée de justice était sans doute extrêmement dispensable. Et donc, il a nommé un responsable de la police qui s'est occupé de.
Mais aujourd'hui, on pourrait dire que 300 ans après, Nicolas Bouzou, l'économie légale existe encore. Hein. Elle a été reprise par la pègre, par les mafias, en Italie et aux États-Unis. Et ça reprend, présente une proportion considérable. Le trafic de drogue en France, c'est 0,1 point de PIB, pour parler votre langage.
Pas choquer nos auditeurs, mais l'économie illégale est évidemment toujours un immense problème. Elle est moins dangereuse qu'elle ne l'était à l'époque, et même qu'elle ne l'était il y a encore quelques décennies. Parce que si vous regardez la mafia sicilienne, par exemple, elle, qui existe toujours, mais elle tue beaucoup moins que ce n'était le cas il y a encore 10 ou 20 ans.
Et probablement son chiffre d'affaires a augmenté.
Oui, mais parce qu'elle ne fait pas la même chose. Parce que justement, elle est beaucoup plus imbriquée en réalité dans l'économie légale. C'est-à-dire qu'elle va truquer des appels d'offres, elle va s'occuper des services publics et ne pas
les déchets,
l'eau, l'électricité ou
les déchets,
etc. Donc en fait, elle récupère l'argent sans rendre de service, ce qui, du point de vue économique d'ailleurs, permet de gagner beaucoup d'argent. On comprend assez facilement, mais c'est complètement illégal. Donc c'est absolument terrible, évidemment, en matière environnementale, par exemple. Mais elle tue plus beaucoup. Bon, alors là, l'idée de progrès est quand même toute relative, parce que je ne veux vraiment pas faire croire que j'ai une quelconque indulgence à l'égard de la mafia. Mais enfin, on est quand même très loin, honnêtement, de la Cour des Miracles. Parce que le point quand même important. Parce que si j'ai voulu venir ici, c'est aussi par une sorte de pessimisme à court terme. Ce que je veux dire par là, c'est que nous allons quand même vers des problèmes économiques qui sont très importants, avec une augmentation du chômage, de la pauvreté.
Du coronavirus.
Bien évidemment, c'est à ça que je pense. Et un des grands enjeux de ces prochains mois, c'est d'arriver, bien évidemment, à prendre en charge au mieux ce problème social qui va se présenter à nous. Ça, c'est vraiment un sujet de réflexion absolument obsédant pour moi, parce que là, contrairement à l'épidémie, la vague économique, la vague sociale, on la voit venir. Hein. Mais là, on peut parfaitement l'anticiper. Donc ça se prépare dès maintenant.
Vous, j'imagine, en tant qu'économiste, vous venez de vivre quelque chose qui est sans précédent. D'abord parce qu'on a choisi...
Vous aussi, hein, cela dit. Hein.
Oui, mais on a choisi quand même de mettre à l'arrêt des secteurs entiers de l'économie pour sauver des vies humaines. C'est la fin du primat de l'économie.
Mais c'est très bien. C'est d'ailleurs la preuve que notre modernité est moins matérialiste qu'on avait... peut-être parfois voulu nous le faire croire. C'est vraiment un signe de maturité philosophique, de maturité morale, je trouve, cette idée qui consiste à dire bon, on va accepter un appauvrissement général pour protéger la vie des individus et en plus pour protéger la vie des plus fragiles, parce que ceux qui souffrent le plus du coronavirus, ceux qui sont le plus en danger, ce sont des personnes qui, par ailleurs, sont déjà fragilisées, des personnes très âgées ou avec des comorbidités. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel et je me dis, c'est peut-être ça ce qu'on retiendra d'ailleurs dans quelques siècles quand on fera un retour en arrière, on se dira, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a fait passer les questions économiques au deuxième plan. Alors, quand je dis ça, attention quand même, hein, c'est-à-dire que il va falloir maintenant en assumer le coût, hein, qui va être colossal, donc il va falloir tenir. C'est ça la difficulté.
On va voir ça juste après une pause, Nicolas Bouzou.
Frédéric Taddeï, en balade avec Nicolas Bouzou sur Europe 1.
Nous sommes avec Nicolas Bouzou dans le Sentier, un quartier... bien connu de Paris, c'était le centre du textile à Paris depuis le 19e siècle. Hein, au 20e siècle, on y trouvait les tailleurs, les ateliers, les grossistes, les distributeurs. C'était en grande partie un quartier juif d'ailleurs. Quand on a vu La vérité ci-jement, ça se passait dans le Sentier. Aujourd'hui, c'est quand même très différent. Alors pourquoi le Sentier vous intéressait en tant que quartier? Pour cette balade.
De façon très prosaïque, je m'y intéresse parce que j'y ai mes bureaux, mais ça m'a permis de découvrir le Sentier, justement, qui est vraiment le quartier schumpeterien. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est le quartier schumpeterien par excellence. Parce que,
schumpeterien, il faut dire que c'est de la destruction créatrice.
Voilà,
c'est la théorie de la destruction créatrice.
C'est l'idée selon laquelle le progrès économique est aussi un acte de destruction. Le nouveau détruit l'ancien. Et moi, mon bureau, donc, il est pile en face du siège historique de France Soir, qui a été l'une des entreprises, évidemment, qui a été balayée par.
C'est vrai que c'était aussi le secteur de la presse.
C'était le secteur de la presse. Dans mon immeuble, et d'ailleurs les bureaux que j'occupe, c'était des ateliers de confection, comme vous le faisiez remarquer, il y a encore 15 ou 20 ans, donc il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul atelier de confection dans mon immeuble, et ce sont des logements et des start-up. Et d'ailleurs, certains appellent ça Silicon Sentier, alors le terme est un peu suranné, mais il y a quand même cette idée de ce quartier qui change tous les 20 à 30 ans de façon assez radicale, mais en même temps pour le meilleur, parce que
c'est
quand même un quartier qui est très agréable.
Mais pour le meilleur, à l'époque, il y a 20 ou 30 ans, dans ce quartier, on aurait fabriquer des masques, par exemple.
Parce qu'il y avait
tous les ateliers pour fabriquer des masques. Aujourd'hui, on a réussi à fabriquer des masques au Maroc, où ils ont hérité une partie de la filière. Là encore, si on regarde La vérité ci-jement, on le comprend. Eux, ils ont fabriqué des masques, et nous, on n'a pas été capable de fabriquer des masques.
Oui, mais je pense que le problème est moins le fait qu'on n'ait pas été capable de fabriquer des masques que le fait qu'on n'en ait pas stocké. C'est-à-dire qu'on pourrait parfaitement imaginer avoir des masques sans que ce soit nous qui les ayons fabriqués. Donc, je vois un peu le terrain sur lequel vous essayez de m'emmener, j'y entre avec plaisir. La question des masques, c'est une question de sécurisation des approvisionnements d'une part, c'est-à-dire qu'en effet, on s'est retrouvé face à des difficultés parce que peut-être que nos sources d'approvisionnement n'étaient pas suffisamment diversifiées. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas anticipé, et d'ailleurs, à ce titre, je ne jette la pierre à personne, puisque je n'avais pas anticipé non plus, mais on n'avait pas anticipé qu'il y aurait un virus respiratoire qui obligerait la moitié de la population parisienne, on le voit, à porter des masques.
Mais Nicolas Bouzou,
je fais encore plus l'avocat du diable pour vous provoquer jusqu'au bout. Moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on rouvre des usines de masques et des ateliers de masques absolument partout en France. Si le prochain coup, on a besoin de seringues, les masques ne nous aideront pas. Donc voilà, je pense que le sujet est quand même assez complexe.
Europe 1, en balade avec Nicolas Bouzou, Frédéric Taddeï.
On peut voir dans ce quartier du Sentier un effet de la destruction créatrice expliqué par Schumpeter, mais on peut voir aussi une perte de compétitivité irrécupérable, puisque c'est vrai qu'ici on appelle ça Silicon Sentier aujourd'hui, il y a des start-up, mais on n'a quand même pas été fichu de faire une application Stop Covid. Vous voyez, donc...
Je vois parfaitement, mais ça nous renvoie alors, pour le coup à des vraies déficiences en matière de politique économique. C'est-à-dire que l'un des enseignements de cette crise, on le savait, mais là c'est vraiment apparu de façon extrêmement crue, c'est le fait que dans le domaine du numérique, nous sommes sous dépendance américaine et chinoise, alors essentiellement américaine, mais tous les outils qu'on a utilisés pendant cette crise, y compris ceux que vous avez utilisés à Europe 1, j'imagine, pour faire de la radio à distance, ce ne sont pas des outils français ni européens. Il y a une seule application que vous avez utilisée ces 8 dernières semaines et qui est française, franco-allemande, en l'occurrence, c'est Doctolib. Voilà, c'est la seule. Tout le reste, c'est américain. Au fond,
Doctolib, c'est pas très compliqué. Doctolib, c'est pour prendre rendez-vous chez le médecin.
Bon, c'est pas mal. Non, mais bon,
c'est pas la médecine du 21e siècle. C'est juste un truc de prendre rendez-vous.
Ouais, vous êtes un peu dur peut-être, mais moi, la question vraiment qui m'obsède, je vais la formuler de la façon suivante, c'est pourquoi OVH, qui est une très belle entreprise française, mais pourquoi OVH n'est pas devenu Google ? Voilà, pourquoi OVH est resté OVH ?
Rappelez ce qu'est OVH, parce que c'est tellement pas Google que personne ne connaît OVH.
Vous avez malheureusement raison, c'est un hébergeur de sites internet et un hébergeur de données en règle générale. Vous êtes une très grande entreprise dans le domaine du numérique, mais vous avez raison de rappeler que la plupart des gens connaissent pas cette entreprise. En réalité, on n'a pas eu de politique industrielle du numérique, on n'a pas en Europe de marché unique du numérique, on en a 27, on en avait 28, on en a 27, mais c'est très fragmenté, et on n'a pas de Nasdaq, c'est-à-dire qu'on n'a pas une énorme bourse, un énorme marché financier qui permettrait à des entreprises françaises ou européennes de lever quand elles en ont besoin, non pas 15 ou 20 millions d'euros, ce qui est déjà très bien et assez rare malheureusement, mais qui leur permettrait de lever 500 millions d'euros ou 1 milliard. C'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'au fond, en théorie, on aurait tout en France et en Europe parce que les start-up, elles sont là, elles sont dans le quartier. Le problème, c'est que les start-up qui sont dans le quartier, moi, je sais très bien ce qui va se passer. Celles qui vont réussir, dans 10 ou 15 ans, elles seront à capitaux américains ou chinois. Voilà. Donc, on aura financé ce qu'on appelle le ramorçage, le début, mais on va perdre les bons emplois,
elles seront rachetées.
Les bons salaires, elles seront rachetées. Donc ça, c'est absolument catastrophique. Et moi, l'un de mes combats, mais depuis maintenant quelques temps, c'est de pousser l'Europe et en particulier la Commission européenne à mettre en place des politiques qui soient des politiques de puissance dans ces technologies de la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire le numérique, mais l'intelligence artificielle.
Celle dont la capitalisation boursière a augmenté depuis la crise du coronavirus. On a bien vu par exemple que Netflix a dépassé Disney, et pour cause, Netflix, tout est virtuel, alors que Disney, il y a Disneyland qui a fermé,
bien sûr.
Les magasins de jouets, et on n'a pas acheté beaucoup de peluches ces derniers temps.
Bien sûr, les GAFA, alors GAFA c'est un terme générique, mais donc GAFA c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, mais en réalité il y a en effet des entreprises comme Netflix, ou même de vieilles entreprises comme Microsoft, ce sont les très grands gagnants de la crise du coronavirus, les très grands gagnants, parce que la crise a montré que nous étions totalement dépendants d'elle, donc dépendants d'elle pour nos loisirs, Netflix, mais aussi pour nos relations à distance. Qu'est-ce qu'on a utilisé ? Disons-le, on a utilisé WhatsApp, Skype. Skype, ça a même donné lieu à un néologisme atroce, hein, les Skyperos, vraiment formidable. Donc les apéros organisés par Microsoft, sous technologie Microsoft en tout cas. L'éducation nationale, j'ai deux adolescents à la maison, j'étais vraiment très impressionné par le travail qui a été fait par les enseignants. Je ne le dis pas par bien-pensance, ou peut-être un peu par bien-pensance, mais aussi parce que je l'ai vu. Ce qui m'a frappé, c'est que moi, j'ai deux enfants, aucun de leurs cours n'a été donné via les outils du CNED. Aucun. C'est-à-dire que les enseignants, ils sont allés vers les technologies qui fonctionnaient, les technologies qui marchaient. C'était les technologies américaines, des GAFA. Bon, donc là, c'est-à-dire, si la crise, au moins, peut nous aider à prendre conscience de ça... Bon. Après, je vais vous dire le fond de ma pensée, il est tard. Il est tard.
On fait une pause, il y a beaucoup de voitures dans les rues, beaucoup de trottinettes.
Beaucoup de vélos aussi, parce que c'est un vélo qui a failli vous renverser là.
Il y a des masques, mais pas tant que ça. Enfin, il y a du monde, on se retrouve dans un instant avec Nicolas Bouzou. Nous sommes en balade aujourd'hui avec l'économiste Nicolas Bouzou. Nous sommes boulevard Saint-Denis.
À l'angle, si je puis me permettre, à l'angle de la rue Saint-Martin Et à la rue Saint-Martin, il y a un endroit qui est très important pour moi, qui n'a rien à voir avec l'économie, mais c'est l'immeuble où sont tournés, au début de la rue Saint-Martin, où sont tournés un certain nombre de sets des Chansons d'amour, le film de Christophe Honoré, qui est mon film préféré depuis qu'il est sorti, que j'ai dû voir 25 fois, et je fais souvent ce pèlerinage, comme beaucoup de gens, des lieux où sont été tournées des scènes de ce film, qui est devenu finalement un film culte. Hein. Il n'a peut-être pas eu énormément de succès au départ, mais c'est devenu un film très important.
Effectivement, un film avec Louis Garrel, Ludivine Sagné et Clotilde M.
Mon petit ange voudrait que je chante ses louanges.
Gloria. Frédéric Taddeï se balade avec Nicolas Bouzou sur Europe 1.
Vous l'avez dit, on l'a dit, des secteurs entiers ont été mis à l'arrêt. Pendant ce confinement général, hein, ou quasi général, à tel point qu'on nous promet une crise de 29 à laquelle il faudra ajouter une crise financière du type 2008 et une crise de la dette type 2010. Vous le pensez vous aussi et quand on cumule les troncs, on se dit mais comment va-t-on s'en sortir?
Non, je crois que ça n'a rien à voir avec les crises précédentes, la crise de 29 ou la crise de 2008 ou la crise de 1875, qu'on appelait la première grande dépression, c'était des crises vraiment endogènes à l'économie et endogènes au capitalisme, avec des dysfonctionnements qui provenaient au départ du système monétaire et du système financier. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans une mise à l'arrêt de l'économie, qui a concerné quand même la moitié de la population mondiale, hein, qui a été confinée, donc on essaie aujourd'hui de faire redémarrer les choses, et la protection de l'économie, la protection des entreprises et la protection des individus, pendant cette période, elle a coûté extrêmement cher aux finances publiques. Le coût pour la France va se chiffrer en centaines de milliards d'euros.
Donc, et en points de PIB, on craint de craindre entre 5 et 10 points de PIB, c'est-à-dire il n'y a qu'à Libye et le Venezuela qui ont
connu... Ce sera plutôt 15 d'ailleurs à mon avis cette année. Donc,
15, façon, donc ça veut dire que c'est plus que la guerre de sécession, c'est comme une guerre mondiale.
Mais exactement, puisque quand on regarde un peu les séries de l'INSEE, hein, on va retrouver ce type de chiffres en 1941-1942. Donc c'est vraiment, on est dans ce type de scénario. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. C'est-à-dire que le choc, il est incroyablement grave. Il va laisser des traces. L'économie va mettre du temps pour repartir. Et bien évidemment, les pouvoirs publics ont dû et doivent encore dépenser des sommes absolument colossales pour protéger les entreprises, pour protéger les individus. Et encore, on n'a pas pu protéger tout le monde. Il y a des tas de gens qui ont été mal protégés, comme les indépendants, les artisans, les professions libérales.
Il faut bien voir que là, on a devant nous des vitrines fermées de restaurants, de bars.
Absolument.
Il n'y a que ça. Ça ne s'était jamais vu. On n'avait jamais fermé comme ça les restaurants, les cafés, ouais. Nulle part.
Oui, c'est incroyable. J'ai toujours, d'ailleurs, à titre personnel, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais j'ai encore du mal à réaliser. Voilà, je trouve que le choc est tout à fait... époustouflant, extraordinaire. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on mène des bonnes politiques économiques. Je pense que c'est ce qu'on fait globalement, c'est-à-dire que les États sont très actifs pour protéger les gens et les entreprises. Les banques centrales sont là aussi pour essayer de faire en sorte, d'une part, que le système financier continue de fonctionner, mais aussi pour faire en sorte que les États puissent se financer à des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt bas. Parce que vous avez tout à fait raison de rappeler que évidemment, les dettes publiques, les déficits des dettes publiques explosent, ce qui est absolument nécessaire, c'est fait pour ça, donc il faut avoir aucun scrupule. Hein. Les États doivent s'endetter à la hauteur des besoins de l'économie. Simplement, on va avoir cette question de portage de la dette publique. Moi, je ne suis pas trop inquiet. Je pense qu'il y a deux conditions pour éviter des problèmes de finances publiques. La première condition, c'est que les taux d'intérêt de long terme restent bas. Les banques centrales font quand même un excellent travail, notamment la Banque Centrale Européenne, donc je suis relativement confiant. Mais le deuxième sujet, c'est qu'on ait beaucoup de croissance économique. C'est la croissance économique qui va nous permettre de nous en sortir. C'est pas les impôts, c'est pas les baisses de dépenses publiques.
Vous allez nous expliquer aux Français qu'il va falloir qu'ils travaillent plus.
Alors, je sais pas si c'est le moment pour évoquer ce sujet, parce que ça pourrait donner le sentiment que les Français n'ont pas travaillé pendant le confinement. Or, vous avez beaucoup de Français qui ont travaillé plus que d'habitude, vous avez des gens qui ont fait du télétravail, et puis pour ceux qui étaient en activité partielle, ce qu'on appelait autrefois le chômage partiel, je pense que cette période, c'était pas une période de repos, c'était une période d'anxiété psychologiquement extrêmement difficile, donc je pense pas qu'on peut leur dire, moi par exemple, je suis pas du tout favorable à ce qu'on raccourcisse les vacances, je pense que le confinement c'est un enfermement, c'est pas des vacances, donc je pense qu'il faut pas, ce sont pas des débats que je trouve très... très intéressant. Ce qui est clair, c'est que collectivement, il va falloir qu'on travaille plus, d'une façon ou d'une autre, mais il va peut-être falloir aussi qu'on travaille un peu plus intelligemment, que les entreprises se réorganisent pour faire en sorte que le travail soit plus intéressant, que le management des entreprises soit meilleur. C'est tout l'enjeu du télétravail, notamment. Hein. Télétravail, ça peut être le pire comme le meilleur. Ça peut être le meilleur si ça permet aux gens de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Et puis aussi, si on laisse davantage d'autonomie aux salariés, si le management apporte davantage de sens au travail, je pense que ça peut être très bien. Et sinon, ça peut être aussi une catastrophe, parce que ça peut être l'intrusion de l'entreprise quasiment 24 heures sur 24 oui. dans le domicile des gens. Mais ouais, ça peut être aussi quand même quelque chose, moi ça fait très longtemps que je suis favorable au télétravail, je pense que ça peut être quelque chose d'absolument formidable. Si votre question c'est est-ce que je suis pour qu'on revienne sur les 35 heures ou ce genre de débat, non pas du tout. Je pense qu'il y a plein de mécanismes qui permettent aujourd'hui de faire des heures supplémentaires, ce genre de choses. Et puis de toute façon, je vous dis pas ça
par... plus, donc.
Et d'être payé plus, et puis je vous dis pas ça par l'acheter, mais il y a des partenaires sociaux, je pense que c'est à eux. En plus, on a maintenant des, comment dire, des négociations syndicales qui se font plus qu'avant au niveau des branches et des entreprises. Donc c'est aux partenaires sociaux de voir, il y a des secteurs où il faut travailler plus, ils se mettent d'accord pour travailler plus. Il y en a où peut-être il faut travailler moins pour sauvegarder l'emploi. Ils se mettent d'accord pour travailler moins et pour voir ce que ça veut dire en termes de salaire. Et voilà, ils sont là pour ça.
Nicolas Bouzou, je vous propose de faire une petite incursion dans le domaine de l'économie immatérielle. Et dans l'économie immatérielle, la musique est assez révélatrice hein, de tout ce qui a pu se passer. Je propose d'écouter la chanson la plus reprise de tous les temps, 2000 fois à peu près, la plus diffusée sur les radios du monde entier au XXe siècle. Chanson écrite et composée et enregistrée par un garçon de 22 ans, il s'appelle Paul McCartney. La chanson « Say Yesterday ». On ne va pas l'écouter par Paul McCartney, mais par Marvin Gaye, qui a contribué donc à enrichir
version,
Paul ouais, McCartney.
Qui n'en avait pas besoin.
Qui n'avait pas besoin, parce qu'il aurait pu le vivre largement jusqu'à la fin de ses jours, avec tous les droits de cette unique chanson « Yesterday », donc, par Marvin Gaye. Oh, yesterday, all my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, people, I ain't half the man I used to be, no. There's a heavy, heavy shadow hanging over me. Yesterday came all too suddenly. Now, oh, why did she have to go? I don't know. Tell you, I don't know. The little girl wouldn't say. Ooh, I must have said something wrong. Now I long, long, long for yesterday. Oh, talking about yesterday. Love, 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 such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Lord, I believe now yesterday. Seems so far away.
place to hide away. Oh, I believe in. I want you to know I believe in yesterday.
Voilà, c'était Yesterday, la chanson la plus reprise de tous les temps et probablement la plus diffusée à la radio. On va écouter les deux autres au cours de cette balade, parce que c'est bien de comprendre ce que c'est que l'économie immatérielle. Hein. C'est typiquement ça.
Ah oui, la question de la musique et des interactions entre la musique et l'économie fait partie des sujets qui me passionnent le plus depuis longtemps. J'ai commencé à écrire un livre sur ce sujet il y a longtemps. Je continue, je le sortirai dans longtemps parce que c'est quelque chose qui englobe. Et
Jacques Attali l'avait fait avec Bruit.
Avec Bruit, qui était un livre magnifique d'ailleurs, j'aime beaucoup.
Oui, il vous explique que la chanson, et notamment Yesterday, elle est à Paul McCartney, mais quand il vous la vend, ou quand il la vend à Marvin Gaye, il l'a quand même encore, la chanson. C'est ça l'économie d'Attali. On peut la vendre, quelqu'un vous l'achète, mais vous l'avez encore.
Je vais vous raconter quelque chose. On est parti du sentier tout à l'heure, et dans le sentier, il y a un des endroits que je trouve être parmi les plus émouvants de Paris, c'est la maison, ce qu'on appelle la maison Mozart aujourd'hui. C'est l'endroit où la mère de Mozart est morte. Mozart était présent, il avait 22 ans. Il y a une symphonie d'ailleurs, la symphonie numéro 31 qui s'appelle Paris. Et il y a ce petit livre de Norbert Elias sur Mozart qui explique de façon, je trouve, absolument éclairante que Mozart était économiquement, d'une certaine façon, en avance sur son temps. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas être un salarié comme l'était Bach, par exemple. Bach était un serviteur. Exactement, salarié, alors qui avait une vie extrêmement réglée, qui ne faisait pas ce qu'il voulait, mais enfin, il avait des revenus fixes. Mais Mozart, lui, pouvait pas supporter cette idée. Et donc, si je veux commettre un anachronisme qui ferait hurler les historiens, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Mais alors même que, c'est ce qu'explique Norbert Elias, les structures économiques n'étaient pas prête. Et donc du coup, il est mort pauvre, il a été jeté dans une fosse commune parce qu'il était en avance, là où d'autres, après lui, on peut penser à Wagner par exemple, sont de véritables entrepreneurs et des gens parfaitement intégrés dans l'économie de leur temps. Bon, vous voyez, même branchez pas là-dessus parce que vraiment, ça me passionne absolument.
On se retrouve juste après ça.
Frédéric Taddeï, en balade avec Nicolas Bouzou sur Europe 1.
Nous voilà avec Nicolas Bouzou, boulevard du Temple, qui est autrefois surnommé le boulevard du crime, les théâtres où l'on jouait la comédie et la pantomime, les cafés, les lieux de promenade étaient ici, mais c'était aussi le quartier louche, hein, les voleurs, les escrocs, les voyous, les criminels. Et vous êtes arrêté devant le 42 boulevard du Temple, la maison où a vécu Gustave Flaubert, enfin plutôt l'immeuble, il est toujours là.
Ouais,
pourquoi vouliez-vous venir ici, Nicolas Bouzou ?
Parce que Flaubert parle beaucoup d'économie, en fait, dans ses romans, et notamment dans celui qu'il a écrit lorsqu'il résidait ici, L'éducation sentimentale, donc, qui est un livre qui porte essentiellement sur la Révolution de 1848.
Qui est l'histoire de Frédéric Moreau, ouais, jeune provincial arrivant à Paris et tombant amoureux de la femme d'un marchand d'armes, Madame Arnoux.
Mais c'est un livre qui est extrêmement détaillé, c'est un livre de reportage, hein, sur la Révolution de 1848. On apprend évidemment beaucoup de choses sur la situation politique, mais ça, on le trouve... On trouve ailleurs, on trouve d'ailleurs des descriptions dans les souvenirs de Tocqueville, par exemple, que j'ai. Alors, je déteste dire ça parce que beaucoup de mes collègues l'ont dit, j'aime pas cette formule, que j'ai relu pendant le confinement, mais enfin bon. En l'occurrence, c'est vrai, mais Flaubert évoque beaucoup les questions économiques parce qu'il s'intéressait à tout. Donc, il va décrire comment fonctionnait une boutique pendant la Révolution.
Comme Zola le fera plus tard.
Exactement.
Au même moment, d'ailleurs.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, cet appartement, alors, c'est incroyable, je suis en train de réaliser qu'il y a quelqu'un qui vit dans l'appartement de Flaubert. Je trouve ça absolument vertigineux, quelqu'un qui n'est peut-être pas un passionné de Flaubert. D'ailleurs, je trouve ça terriblement injuste. Alors là, mon surmoi libéral n'y résiste pas. Je serais plutôt favorable à une nationalisation et au fait qu'on y fasse un musée ou qu'on le rende à des gens qui sont passionnés par Flaubert. Mais il recevait ici les frères Goncourt, par exemple, le dimanche. Et enfin, j'imagine, mais les conversations, ce qui devait se dire, mais ça devait être absolument... absolument extraordinaire. Je pense qu'il n'y passait pas énormément de temps. Hein. Il passait plus de temps à Rouen, à Croisset. Maison qui, d'ailleurs, il faudrait aussi nationaliser, d'ailleurs. Vous voyez, je suis plus ouvert d'esprit. Je suis sûr que même vous ne le pensiez. pour rendre ces endroits à la culture. Mais je suis très intéressé par la Révolution de 1848. Alors peut-être aussi parce que ça correspond à un moment qui a été vécu et étudié par des gens dont je revendique une filiation intellectuelle. Alors ce que je dis est incroyablement prétentieux, bien évidemment. Je pense à Tocqueville, notamment. Et cette révolution qui est complètement incroyable parce que elle est pleine de rebondissements, parce qu'elle a terriblement ensanglanté Paris, parce que c'est un véritable engrenage totalement imprévisible au départ, puisque c'est quand même une révolution populaire avec une très forte montée des idées socialistes qui se termine par l'Empire et Napoléon III, d'une certaine façon.
Et la révolution
façon,
industrielle.
Et donc par quelque chose de très bourgeois, finalement. Donc là, on voit tout cet engrenage absolument imprévisible qui me conforte dans l'idée, alors qui est une idée vraiment tocquevillienne, mais qui sera reprise et développée par Popper ou par Raymond Aron, selon laquelle l'histoire est absolument imprévisible, ce qui n'est pas enfoncer une porte ouverte, puisque vous avez toute une filiation marxiste qui considère, au contraire, que l'histoire est quelque chose qui est parfaitement prévisible, qui a un sens de l'histoire, qui a des classes, qui a une guerre des classes, que certaines classes vont prendre l'ascendant sur d'autres, que tout ça va disparaître, que sais-je. Il y a plein de visions différentes, il y a plein de ramifications à la vision marxiste de l'histoire. Mais je pense que cette idée de l'imprévisibilité de l'histoire telle que défendue par Popper, elle m'est extrêmement chère, parce que c'est là-dessus que se fonde la possibilité du libéralisme, de la liberté et de la démocratie. C'est-à-dire que si l'histoire est écrite, pas besoin de liberté, pas besoin de démocratie. C'est-à-dire c'est facile, c'est terrifiant, c'est facile. Alors si vous êtes bourgeois dans la vision marxiste, c'est absolument terrible. Mais enfin bon, en tout cas, on voit où on n'a plus besoin de liberté. Moi, je crois pas ça.
Europe 1, 11h30, en balade avec Nicolas Bouzou, Frédéric Tadéhi.
Vous me tendez une perche, Nicolas Bouzou, en parlant de Flaubert et de Frédéric Moreau, qui est, parce que c'est quelqu'un qui veut faire une carrière. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur la vôtre. Je me souviens de vous, quand je voulais commencer à vous inviter dans Ce soir ou jamais.
Oui, je me souviens très bien.
Il y a une quinzaine d'années maintenant, non, un peu moins, 13 ans. Vous étiez jeune, personne ne vous connaissait. Oui. J'ai invité d'autres économistes, mais vous avez plu immédiatement. On vous a immédiatement invité dans d'autres émissions de télévision, à la radio, dans la presse écrite. En tant qu'économiste, vous êtes devenu, parce que vous étiez jeune aussi, un jeune économiste promu par les médias. Alors, est-ce que c'est parce que vous étiez meilleur économiste que les autres, ou est-ce que c'est parce qu'au fond, vous aviez un profil qui convenait à l'époque ?
Moi, je ne peux pas dire que j'étais meilleur que les autres, même si... peut-être que quelque part, j'y crois, ou en tout cas partiellement. Mais de toute façon, ce ne serait pas ça. Enfin, même si c'était ça, ça n'est pas la bonne réponse à votre question, de toute façon. Parce que
il y a des
gens absolument extraordinaires qui, de toute façon, ne sont pas présents dans les médias.
Voilà, donc, vous auriez été un économiste anti-euro, économiste marxiste.
Ok, d'accord.
On ne vous aurait pas invité dans les médias comme on l'a fait.
Mais par contre, je pense que là, l'interprétation que vous essayez de donner n'est pas la bonne non plus. C'est-à-dire que je crois que ce n'est pas ça le sujet. Je crois que le sujet, c'est simplement que je m'exprime clairement. J'ai l'esprit de synthèse, que je peux m'adapter à des formats longs ou à des formats courts, que j'aime
bien. Ne croyez pas que c'est parce que, au fond,
je pense qu'il faut pas chercher
beaucoup plus loin. Vous êtes un économiste libéral, vous l'avez dit, mais libéral à la française, c'est-à-dire pas un néolibéral, un libéral à la Aron.
Non, parce que malheureusement, dans les médias, on ne parle pas beaucoup de ça. Ça, j'en parle avec vous, j'en parle dans les livres. D'ailleurs, la différence. C'est vrai que je ne suis pas du tout un néolibéral,
Mais au fond, vous êtes un économiste qu'on pourrait appeler orthodoxe, c'est-à-dire qu'au fond, je suis sûr que vous avez la même vision que Emmanuel Macron, que les gens qui sont au pouvoir à Bercy. Au fond, vous comprenez leurs soucis, vous avez à peu près la même vision qu'eux. Et s'il y a changement de modèle, comme certains l'appellent de leur vœu depuis le coronavirus, vous seriez beaucoup moins intéressant pour comprendre l'économie, parce qu'on préfère les gens qui sont en phase avec ceux qui
pas
gouvernent.
Du tout. Je suis en désaccord total avec vous. Je pense que s'il y avait un changement de modèle, pour le grand malheur de ceux qui m'aiment pas, on me verrait toujours, voire plus. Parce que il y aurait toujours ce besoin d'explication et ce besoin de défendre des idées. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas du tout mes idées et qu'on voit beaucoup. Des gens avec qui j'ai vraiment des différences, mais absolument radicales. J'entendais dans votre émission il y a quelque temps Emmanuel Todd. J'ai pas l'impression que Emmanuel Todd manque de relais médiatique, si vous voulez. Pourtant, je suis en désaccord absolument sur tous les points avec lui. Donc vous voyez bien que c'est pas ça l'explication.
Mais il n'est pas économiste et c'est
non,
pas.
Non, mais
c'est pas même. Ce qu'on appelle un économiste attitré. rentrer dans toutes les émissions.
Non, mais ça, on s'en moque. Enfin, franchement, c'est pas le fait d'être... Beaucoup d'économistes universitaires me reprochent de pas être économiste parce que je m'intéresse à tout un tas de sujets parce que j'enseigne pas à l'université. Et je pense là vraiment que c'est pas du tout ça. Là, je pense que vous allez
je vous pose des questions. Non, avis, on peut se demander pourquoi, par exemple, je vous ai choisi vous pour parler du déconfinement. C'est aussi parce que je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde que la plupart des gens qui nous dirigent et que donc, en vous écoutant, qu'on soit d'accord avec vous ou pas, au fond, on a la vision de ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. Vous êtes en phase.
D'accord, très bien. Mais là, vous m'invitez peut-être aujourd'hui pour ça. C'est une immense déception pour moi. Mais
non, au contraire.
Non, je plaisante. mais très honnêtement, je pense que tant que la presse sera libre et tant qu'on considérera, c'est ça le sujet, que ce que je peux dire peut présenter un quelconque intérêt.
Ce que je pense aussi, je vous rassure.
Non, mais c'est gentil. Mais voilà, je pense que je serai invité. Donc j'ai pas cette, j'ai vraiment pas cette angoisse. Je pense qu'il y a autre chose. Je pense que moi, j'explique d'où je viens, j'explique mes idées. Je dis que je suis un peu idéologue. Je suis un peu idéologue.
Comme tous les économistes, non ?
Voilà, ouais, mais moi, je le dis vraiment. C'est-à-dire que j'ai choisi, adolescent, pas du tout pour des raisons économiques, hein, mais pour des raisons, c'est un choix, c'est ce que Raymond Aron appelle choix fondamental. J'ai choisi la liberté au-dessus du reste. Voilà, ça ne veut pas dire du tout que je suis contre l'État, etc., mais j'ai mis la liberté au-dessus.
On se retrouve dans un instant avec Nicolas Bouzou dans la rue Oberkampf. Nous remontons à présent la rue Oberkampf avec Nicolas Bouzou. La rue Oberkampf, c'est la rue des bars, des cafés du 11e arrondissement. C'est un des axes de la vie nocturne aujourd'hui, ou du moins c'était un des axes de la vie nocturne, puisque déconfinement oblige. Les cafés, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit sont toujours fermés. Nicolas Bouzou, une question me vient à l'esprit. Comment expliquez-vous que les ministres de l'économie ne sont jamais économistes ? Quand on regarde, Bruno Le Maire n'est pas économiste, ni Michel Sapin avant lui, ni Emmanuel Macron, qui est inspecteur des finances, mais pas économiste, ni Arnaud Montebourg. Au fond, il y aurait Pierre Moscovici, lui, il a fait un DEA de sciences économiques. Dominique Strauss-Kahn avait fait HEC et des études de statistiques. Jean Arthuis était expert comptable. Le seul véritable économiste, c'était Raymond Barre. Lui, il était économiste de profession.
Depuis la Révolution française, peut-être avant, mais très clairement depuis la Révolution française, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans les discours de Robespierre. Il y a cette idée selon laquelle l'économie doit être sous la politique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait...
En France,
c'est spécifique à la France. Alors c'est l'inverse des pays anglo-saxons. Hein. C'est-à-dire qu'on a tout en haut la morale, en dessous la politique et en dessous la société civile, dont l'économie. Voilà, l'économie, c'est...
La morale, c'était les intellectuels.
Exactement. Donc, il est assez logique, au fond, qu'on ne place pas d'économistes à la tête des grands ministères. Alors après, je pense qu'il y a un deuxième aspect, hein, c'est que la politique en France, c'est très important, c'est plus important que dans la plupart des autres pays, et la discipline politique est très particulière. Ce n'est pas une discipline de la rationalité. Le métier d'économiste, il est basé sur le postulat de la rationalité. Le métier politique, c'est un métier qui n'est pas civilisé, dans lequel beaucoup de décisions n'ont pas de rationalité économique, mais ont des rationalités autres. Je vous donne un exemple concret, hein, un débat très concret. Le débat sur l'ISF. Alors on peut être pour ou contre, hein, je rentre pas là-dedans. Simplement, en France, il est très peu posé de façon économique. On se pose assez peu la question, est-ce que l'ISF c'est bon ou pas pour l'économie ? Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est juste ou injuste ? Voilà. C'est légitime, hein, mais c'est quand même très symptomatique de la supériorité des questions morales.
Voilà, c'est, on ramasse les poubelles.
Nos amis éboueurs qui font leur dur travail. L'économie est en dessous, et puis la politique, c'est en France un exercice, mais qui est plus difficile qu'ailleurs. Vraiment, mais je connais pas. Enfin, j'ai quand même beaucoup d'amis dans le monde politique qui ont été complètement carbonisés par l'expérience politique. Et c'est pire encore maintenant, d'une certaine façon, parce qu'il y a une exigence de transparence qui est devenue, d'ailleurs, à mon avis, je vais me faire détester, mais excessive. Au fond, il faut être un saint aujourd'hui pour faire de la politique. Alors moi, je suis pas un saint.
Et puis, il faut être un peu maso, parce qu'on sait qu'on va prendre des coups, on sait que trois quarts des Français vont vous détester. Enfin, on a vu les sondages récents, c'est assez intéressant. En Italie, qui a beaucoup souffert du Covid, enfin, dans les proportions assez similaires à notre pays, où on a confiné de la même manière et où on a à peu près le même nombre de morts. Les trois quarts des Italiens, dans les sondages, trouvent que le gouvernement italien a bien géré la crise du coronavirus. Et pour les mêmes résultats, en France, l'effet est inverse. On a trois quarts des Français dans les sondages qui disent que le gouvernement a mal géré la crise du coronavirus.
On trouve l'explication, pour le coup, pardonnez-moi d'y revenir, mais on trouve l'explication chez Tocqueville. C'est-à-dire que c'est lié à la centralisation de la France et à l'importance du pouvoir
de l'État.
Bien sûr, du président.
Du président.
Du roi ou du président, mais de ce point de vue-là, c'est pas très différent. On a vis-à-vis du roi ou vis-à-vis du président un sentiment d'amour-passion. En général, c'est au début du quinquennat, ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment de l'amour-passion. Souvenez-vous, Emmanuel Macron au début du quinquennat, ou même Nicolas Sarkozy d'ailleurs, une très grande partie de la population attend la résolution de tous les problèmes quotidiens du nouveau président. Et puis comme c'est pas possible, très rapidement, cette passion devient une espèce de haine. Donc c'est très exactement ce que l'on est en train de vivre. Et donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que président de la République en France, c'est le métier le plus difficile du monde, mais c'est beaucoup plus difficile que Premier ministre du Royaume-Uni ou que président des États-Unis.
Et pourtant, on s'étonne à chaque fois qu'il y en a de plus en plus qui aimeraient bien l'exercer.
Parce que c'est quand même, on n'a qu'une vie, et parce que c'est quand même le métier le plus intéressant qui soit. J'aurais adoré être président de la République, j'aurais adoré ça.
Ah oui, pourtant on est impuissant à résoudre la plupart des problèmes. On a du pouvoir,
c'est très difficile.
On a du pouvoir, on peut nommer des tas de gens, mais à la fin, est-ce qu'on a du pouvoir dans un monde multipolaire de 8 milliards d'habitants ?
Je vois parfaitement ce que vous voulez dire. On a au moins un pouvoir, c'est d'essayer de contribuer à mettre en place des structures de gouvernance qui permettent d'agir, et en particulier la question européenne. C'est la raison pour laquelle moi je suis très européen. Je suis européen, si je voulais vous provoquer un peu, par une sorte d'antilibéralisme. C'est-à-dire que je suis européen parce que je considère qu'on a besoin de puissance politique, je considère qu'on a besoin de régulation, et aujourd'hui je considère que c'est l'Europe qui est capable d'être efficace, de réguler, c'est-à-dire d'infléchir le cours de l'histoire et d'aller plus loin que le mode de régulation automatique des marchés.
On reparlera de l'Europe, Nicolas Bouzou. Je vous propose un petit retour dans l'économie matérielle, donc la musique. Sur le podium des trois chansons les plus reprises de tous les temps, il y en a une composée par un Brésilien de 35 ans, Antonio Carlos Jobim, sur des paroles de Vinicius de Moraes, et The Girl from Ipanema. Elle aussi a fait le tour du monde et rapporté des millions à ses ayants droit. On va l'écouter dans la version française, chantée à l'époque par Nana Mouskouri, la fille d'Ipanema.
Frédéric Taddeï se balade avec Nicolas Bouzou sur Europe 1.
Grande et mince et belle et douce, la fille d'Ipanema se pousse sur le rivage et toute la plage fait ah. Elle marche comme une algue portée sur l'aile d'une vague jusqu'au rivage et toute la plage fait ah. Les garçons la regardent et leurs idées qui bavardent ont des chansons qui s'attardent sur le corps de la fille aux yeux clairs, mais elle ne voit que la mer, grande et mince et belle et douce comme une voile. Dans sa course, il ne voit qu'elle, mais elle ne voit que la mer. Et leurs idées qui bavardent ont des chansons qui s'attardent sur le corps de la fille aux yeux clairs, mais elle ne voit que la mer. mince et belle et douce comme une voile. Dans sa course, il ne voit qu'elle, mais elle ne voit que la mer, ne voit que la mer. Doupi-doui, 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 doupi.
C'était La fille d'Ipanema, chantée par Nana Mouskouri. On se retrouve juste après ça.
Frédéric Taddeï, en balade avec Nicolas Bouzou sur Europe 1.
Nous sommes toujours rue Oberkampf. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de véhicules de nettoyage. On nettoie les rues de Paris, mais on ne désinfecte pas, comme dans certains pays. Nous sommes avec l'économiste Nicolas Bouzou et on a été rejoint par un philosophe, c'est Pierre-Henri Tavoyot, votre ami Pierre-Henri Tavoyot, qui a écrit sur les Lumières, Le crépuscule des Lumières, c'était votre premier livre en 1995, sur l'autorité, sur les complots, sur l'âge, la guerre des générations aura-t-elle lieu? Pierre-Henri Tavoyot, à votre avis, c'est plus facile ou moins facile de gouverner en temps d'épidémie?
Ah bah, par temps de crise, c'est toujours plus facile, parce que les choses qui étaient compliquées deviennent simples. Il y a le bien et le mal apparaissent clairement, même si les citoyens n'arrêtent pas de débattre et de râler. Mais il y a quelque chose de commun qui se constitue. Donc c'est plus facile, ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, l'esprit critique ne s'exerce pas moins. Mais incontestablement, c'est la situation rêvée pour un gouvernant. Enfin, tout le monde rêve d'affronter, quand on est gouvernant, d'affronter une grande crise. C'est quelque chose qui permet de passer à l'histoire.
Vous le voyez comme ça aussi, Nicolas Bouzou?
En fait, j'ai demandé à Pierre-Henri de nous rejoindre pour une très mauvaise raison, c'est que je suis toujours d'accord avec lui, c'est que nous sommes toujours d'accord. Et là, je me demande si j'ai pas une nuance pour le coup, parce que je trouve quand même que les choix, notamment dans le domaine économique, sont vraiment très difficiles à faire. Voilà. Moi, j'ai un certain nombre d'idées sur ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas certain que ce soit les bons choix. Pour taper contre mon camp, dans une situation plus normale, je suis plus confiant envers mes idées, je ne devrais pas le dire, mais qu'en ce moment, parce qu'on fait quand même des choix, notamment en matière d'endettement public, qui à mon avis sont bons, mais enfin qui engagent le pays pour des décennies, peut-être pour 50 ans. Et je trouve que du point de vue mais purement intellectuel, surtout... cette crise, elle est sans précédent. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de process, il n'y a rien.
Il n'y avait pas de process pour le confinement. Ça n'avait jamais existé, à part dans quelques villes américaines pour la grippe espagnole, il y a un siècle. Et il n'y a pas non plus de process pour le déconfinement.
Non, mais il n'y a pas de process non plus pour la politique économique et la politique sociale que l'on va devoir suivre.
C'est ce qui permet à beaucoup de gens, vous disiez, la critique est toujours vive, mais c'est aussi d'imaginer un monde d'après.
Oui, alors c'est souvent l'imagination du monde d'après, c'est en général conforme à ce qu'on pensait avant. Donc ça rejoint un petit peu les prophètes de l'advenu qui sont toujours d'accord avec eux-mêmes, quelles que soient les circonstances. Mais ça, c'est le principe même de l'idéologie. Non, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir effectivement ce que ça change réellement, c'est-à-dire... Et d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose? Alors évidemment, les risques qu'évoquait Nicolas il y a un instant sont colossaux. Enfin, l'endettement, je partage ce souci, parce que, encore une fois, l'endettement, c'est pas simplement de l'argent, c'est de l'avenir, c'est de la politique.
C'est ça.
L'endettement, c'est vraiment la marge de manœuvre qui nous reste. Et plus on est endetté, moins on a de marge de manœuvre. Donc ceux qui disent « mais c'est pas grave, on payera pas la dette », mais oui, sans doute, on payera pas la dette, mais on payera toujours les intérêts de la dette. Et si on paye les intérêts de la dette, on aura effectivement moins de marge de manœuvre et on sera moins maître de notre avenir. Or, la démocratie, c'est la maîtrise de son destin. Donc c'est effectivement se mettre en grand danger.
Et tu vois, ce qui est difficile, c'est que moi, je suis pour ces politiques. C'est ça. C'est-à-dire
tu es devenu keynésien.
En l'occurrence, en ce moment, bien sûr, je le suis.
Tout le gouvernement est devenu keynésien. Une grande partie des économistes...
Keynes, c'est la crise.
Qui voulaient l'austérité il y a encore pas très longtemps sont devenus keynésiens.
Oui, c'est moi, ça. Parce que les circonstances ont radicalement changé. Parce qu'on est dans une situation qui est absolument exceptionnelle et que je considère qu'il faut être keynésien et l'être très largement. Mais je sais aussi qu'en étant keynésien et en l'étant très largement, on engage notre pays. On ne l'engage pas pour un quinquennat. Là. On l'engage pour 50 ans dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, je suis obligé de me poser en permanence cette question. Mais tu le dis souvent, d'ailleurs. Tu le dis là, au fond, la, La politique, c'est pas choisir entre des bonnes et des mauvaises solutions. Sinon, le métier politique serait très simple. C'est choisir entre des mauvaises solutions.
Oui, entre des mauvaises et les pires. Mais c'est vrai que sinon, il y aurait même pas besoin de politique.
La moins mauvaise, disons.
Si on n'avait pas de ce choix-là, il y aurait même pas besoin de politique. Ça suffirait de tout le monde serait d'accord sur le bien et le mal. Non, c'est vraiment, je pense, des situations qui sont.
Et c'est justement une situation aussi très intéressante parce qu'elle libère. Je le disais, toutes les imaginations, mais aussi tous les fantasmes. Tout le monde a été frappé par le fait qu'on pouvait tout à coup clouer les avions au sol, fermer les usines, moins consommer d'essence. Et donc on s'est dit, ben voilà, là on voit qu'on peut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, on pourrait vraiment lutter contre la disparition de la biodiversité, on pourrait changer de modèle.
Ah ben avec Pierre-Henri, on va se rejoindre contre vous.
À quel coup ? C'est
formidable.
C'est pas moi, c'est j'écoute.
À quel coup ? C'est-à-dire qu'effectivement, la crise économique qui nous attend montre qu'effectivement, cette solution-là est très compliquée à mettre en œuvre.
C'est-à-dire qu'on improvise, vous disent ceux qui la souhaitent. Ils disent si on l'organisait, ça se passerait mieux.
Je doute que ça se passe mieux. C'est-à-dire que pour éviter une catastrophe à venir, on va produire une catastrophe certaine. C'est ça un peu le collapsisme qui souhaite la catastrophe à tout moment. Non, je trouve que c'est vraiment une situation où là, on rejoint effectivement la volonté d'avoir une vision simpliste des choses et de l'avenir. C'est-à-dire dire, voilà, il y a une bonne solution. Or, il faut admettre, si on est un peu adulte, qu'il n'y a pas de bonne solution, sinon ça se saurait.
On écoute les infos, on se retrouve juste après avec Nicolas Bouzou et Pierre-Henri Tavoyau qui va faire un bout de chemin avec nous.
Europe 1, en balade avec Nicolas Bouzou, Frédéric Taddeï.
Nous continuons jusqu'à 12h30 notre balade dans les rues de Paris déconfiné avec un économiste, c'est Nicolas Bouzou. On a été rejoint par un philosophe, son ami Pierre-Henri Tavoyau. Renault, parlons de Renault une seconde. Nicolas Bouzou, voilà une grande entreprise en mauvaise situation. Le marché des voitures neuves a chuté des trois quarts pendant le confinement. L'État lui garantit un prêt bancaire de 5 milliards, mais Renault veut fermer des sites et licencier des milliers de salariés en France, pas en Espagne, pas au Maroc, pas en Roumanie, pas en Turquie, où il y a également des sites Renault, mais en France, ce qui choque évidemment et le ministre de l'économie et pas mal de gens. Qu'en pensez-vous ?
Le ministre de l'économie, il est dans son rôle. C'est son rôle d'être choqué. Si j'étais ministre de l'économie, je tiendrais exactement le même discours. Le fait est que Renault avait des difficultés avant la crise et que cette crise, comme toutes les crises d'ailleurs, j'enfonce une porte ouverte, mais joue davantage un rôle d'accélérateur des mutations que de changement de mutation en elle-même. Et c'est très exactement ce que l'on voit, on en parlait tout à l'heure avec le succès des GAFA pendant cette crise et avec les difficultés d'un certain nombre de grandes entreprises. Il n'y a pas que Renault, il y a des entreprises qui sont en train de faire faillite dans des grandes enseignes, dans les secteurs du meuble, par exemple.
Il y a Air France qui est en difficulté aussi.
Qui est en difficulté, le transport aérien, les compagnies historiques dans le transport aérien sont en difficulté.
Vous expliquez, vous étiez devenu keynésien, comme une bonne partie du gouvernement. Est-ce que vous êtes de nouveau favorable aux nationalisations ?
Ça dépend.
Dans des circonstances aussi exceptionnelles,
je veux dire.
On peut l'imaginer.
Oui, je suis favorable à des nationalisations temporaire pour sauver des entreprises qui sont profitables sur le moyen long terme. Parce que si on se met à nationaliser toutes les entreprises, c'est du gaspillage. Parce que vous voyez ce qui est difficile à expliquer, surtout en France, mais c'est que les faillites d'entreprise, elles sont parfois nécessaires. Parce qu'une entreprise qui n'est pas rentable, elle utilise des ressources, ne serait-ce que des personnes qui pourraient faire des choses plus profitables et avoir meilleurs salaires ailleurs. Donc la faillite, c'est un mécanisme de régulation qui est utile dans une économie. Mais en revanche, il serait complètement stupide de laisser des entreprises qui sont très bien faire faillite uniquement parce qu'il y a eu le coronavirus. Et donc il faut aider les entreprises qui sont en difficulté uniquement à cause du coronavirus et pas les autres. Alors ça, c'est ce que nous dit la théorie économique, c'est, je pense que tout le monde comprend. Ensuite, en pratique, on en revient à notre débat précédent avec Pierre-Henri, choisir quelles sont les entreprises à soutenir et quelles sont les entreprises à laisser tomber, ça pose des problèmes de fond, des problèmes de communication, des problèmes politiques,
là,
tout ce que vous voulez.
Je vois tous les restaurants fermés autour
les aider.
De nous. La France, c'est le pays des restaurants, on a inventé les restaurants, on est le pays dont la gastronomie est la plus admirée et appréciée dans le monde. Tous ces restaurants fermés, que vont-ils devenir ?
Non, mais eux, il faut les aider. Alors, eux, il faut de l'argent public, il faut du soutien public, parce que tous ces restaurants... Moi, j'habitais dans cette rue, hein, donc tous ces restaurants de la rue, rue Saint-Maur, rue Oberkampf, rue Jean-Pierre Timbaud, c'est des restaurants qui fonctionnent très bien. Et en fait, on leur a demandé de fermer. C'est pas eux, c'est pas un acte de mauvaise
gestion.
On leur a ordonné de fermer. Donc, il n'y a absolument aucune raison... ni économique, ni, je parle sous le contrôle de Pierre-Henri, mais ni morale, il n'y a aucune raison de ne pas les aider. Il faut absolument les soutenir. Et là, je suis très favorable, bien que libéral, je suis très favorable à ce qu'on engage autant d'argent public qu'il sera nécessaire pour aider ces restaurants.
Et enfin, de l'argent, on peut en trouver toujours, autant qu'on veut.
Non, mais attends, ça, je sais pas, ça, faut pas exagérer. Aujourd'hui, on peut en trouver. Aujourd'hui, on peut en trouver, donc, je le dis, il faut qu'on s'endette en proportion des besoins. Aujourd'hui, on peut le faire pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure, puisque les taux d'intérêt sont bas, parce qu'il y a beaucoup d'épargne dans le monde, il y a beaucoup plus d'épargne que d'investissement, donc il y a de l'argent qui est prêt à être prêté aux États. Donc, allons-y, profitons-en. Maintenant, il faut quand même s'endetter pour des actions de politique économique qui sont intelligentes. Donc il ne faut pas gaspiller l'argent, parce que cet argent, je l'ai dit, il nous engage nous, mais il engage aussi nos enfants et nos petits-enfants. Donc il faut faire attention. Mais je préfère qu'on leur laisse une dette plutôt qu'un pays absolument sinistré.
Là, on parle de morale, et donc le philosophe Pierre-Henri Tavoyot a certainement son mot à dire. C'est moral d'aider tout le monde, les restaurants, les bars, les cafés, les boîtes de nuit, des endroits où on se drogue, où on fume, où on boit de l'alcool.
Ah oui, je vois bien l'exemple, c'est bien joué. Non, il ne faut pas engraisser la bête inutilement, c'est ça le critère. Mais après, le critère, je pense, c'est pas en l'occurrence une question morale, c'est vraiment une question politique, parce que c'est là où les choses se jouent. C'est, on voit le critère. Les entreprises qui sont fragilisées sans l'avoir, si je puis dire, ni souhaité, ni du fait que ça soit leur
provoquer
leur responsabilité, voilà, ça c'est clair. En revanche, effectivement, aucune raison d'aider des entreprises qui étaient déjà en difficulté au départ.
Non,
on est bien clair.
Mais ce qu'il faut trier, c'est-à-dire, encore une fois, entre les restaurants qui nous font manger des animaux et les restaurants qui ne nous font pas manger les animaux.
Non. Là,
on les établissements qui servent de l'alcool et ceux qui n'en servent pas.
Le pangolin, faut arrêter. Hein,
ouais, faut arrêter. Entre les boîtes de nuit, par exemple, sont des lieux de divertissement. Certains diront même des lieux de divertissement pour gens qui en ont les moyens, et puis des établissements
plus
démocratiques, où
la
tout
caractéristique
monde peut rentrer.
Des démocraties, c'est justement qu'on accepte une diversité de conception du bien. Il y a une pluralité de conception du bien entre lesquelles il faut arbitrer. Et donc, voilà, nous sommes là dans... j'allais dire que l'action publique doit être neutre par rapport à, effectivement, des choix qui peuvent être des choix de valeur et des choix discutables, par définition. Donc là, c'est pour ça que je dirais que ce n'est pas une question de morale, c'est au contraire une question de laïcité. On veut être ouvert sur les questions.
Ça n'a rien à voir, la laïcité.
C'est la pluralité des conceptions du bien. C'est-à-dire, voilà, on est là dans une sorte d'une position de neutralité. La laïcité, c'est un peu la neutralité, quand même.
Oui, la neutralité, ça, c'est la laïcité, effectivement. On se retrouve dans un instant, rue Jean-Pierre Timbaud. Nous sommes devant le passage de la Fonderie, qui date de la fin du Second Empire. Hein. C'était la Révolution industrielle, à l'époque, quand on a construit tous les ateliers qui sont préservés, d'ailleurs, dans ce passage. Pourquoi vouliez-vous venir ici?
Alors, il se trouve que j'ai habité il y a 20 ans, quand j'ai rencontré ma femme, elle habitait ici, et je suis venu habiter avec elle passage de la Fonderie, mais il y avait une fonderie, en fait. Là aussi, c'est très intéressant de réfléchir à l'économie dans ce quartier, parce que c'était un quartier qui était un quartier industriel. Il y avait beaucoup d'usines, on en voit encore certaines traces dans des bâtiments, alors pas dans ce coin de la rue Jean-Pierre Timbaud, mais rue Oberkampf, on voit encore des façades d'usines. Et tout ceci a bien évidemment complètement disparu. Et en même temps, vous voyez que Schumpeter fonctionne pas si mal parce que c'est un quartier qui est, incroyablement vivant. Dynamique, qui est très dense, qui a vécu une vraie gentrification. C'est-à-dire que ça a été un quartier populaire. Ouais. Quand moi j'y habitais d'ailleurs, c'était un quartier où on venait habiter parce qu'on n'avait pas les moyens d'habiter dans les arrondissements centraux. Mais enfin, aujourd'hui, les prix de l'immobilier ici sont très élevés.
Passage de la Fonderie, c'est 10 000 euros de mètre carré en moyenne. Ça. Il faut rappeler que le prix du logement a augmenté de 150% en 20 ans. Hein, et à Paris, ça a presque triplé.
Exactement.
L'INSEE n'en tient pas compte d'ailleurs, ce qui lui permet de dire que le niveau de vie des Français n'a pas baissé, mais personne n'est dupe.
Alors, parce que le... Je suis interrompu parce qu'apparemment on peut rentrer, parce que ce qui est aussi symptomatique des évolutions de la société, c'est que quand j'y habitais, c'était ouvert,
et maintenant il y a une grille.
Il y a une grille, évidemment, pour pas que... pour pas se sentir...
10 000 euros le mètre carré, ça paraît normal.
C'est qui, donc voilà. Mais, et puis alors, je parle pas trop fort, parce que je me méfie de ces quartiers, c'est là, en général, qu'on risque de se faire arrêter pour tapage nocturne.
Au milieu de la journée. Sûr,
je me méfie.
Europe 1, 11h30, en balade avec Nicolas Bouzou, Frédéric Tabéhi.
J'ai oublié votre question, Frédéric, du coup.
La question, c'est que le niveau des...
Ah oui, sur l'INSEE, oui, bien sûr. Oui, alors non, mais il y a une vraie raison derrière ça. C'est-à-dire que quand on achète un bien immobilier, c'est pas de la consommation, hein, c'est un acte d'épargne. Donc ça peut mobiliser beaucoup d'épargne, mais c'est pas de l'argent qui...
Quand on loue,
c'est dans la consommation, et les loyers sont dans l'indice des prix à la consommation. Ce qui d'ailleurs, cette question d'inflation, hein, je commence à la surveiller. Parce qu'on voit, par exemple, sur les prix de l'alimentation, qu'aujourd'hui, il y a quelques difficultés sur l'offre, hein, parce que ça a été un peu compliqué peut-être de produire pendant le confinement, parce que les chaînes logistiques étaient un peu désorganisées.
Et les prix ont augmenté.
Les prix ont augmenté quand même. Aux États-Unis, on voit qu'on est sur des augmentations de prix sur l'alimentation de 5%. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même à surveiller, parce que malheureusement, on entre dans une période dans laquelle le chômage va augmenter, le pouvoir d'achat va être sous tension. Et donc, je crois qu'il va falloir surveiller très attentivement ce genre de choses. Ça veut dire aussi, d'ailleurs, au passage, j'anticipe peut-être, Frédéric, je suis désolé, mais sur là, puisqu'on parle beaucoup des relocalisations, on dit qu'il faut relocaliser, etc. Formidable, hein, j'ai absolument rien contre ça, mais celui qui décide des relocalisations, c'est le consommateur. Hein, c'est lui qui décide d'acheter ce qui est relocalisé ou pas. Il faut quand même qu'on garde en tête le fait que les consommateurs dans les pays développés, ces prochaines années, vont avoir une sensibilité au prix qui sera importante parce que leur pouvoir d'achat sera sous pression.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le débat, en tout cas entre intellectuels, on va dire, semble diviser les gens entre faut-il continuer de mondialiser ou au contraire faut-il relocaliser, plus de protectionnisme, plus de souverainisme économique, j'entends. Vous allez me dire que c'était déjà le débat avant le confinement, mais là il prend une nouvelle tournure. Le camp des anti-mondialistes s'est renforcé.
Oui, bien sûr. Je suis désolé, je vais tenir le même discours que celui que j'ai toujours tenu, mais le protectionnisme n'a jamais rien apporté de bon. Le protectionnisme s'est toujours retourné contre ceux qu'il était censé protéger. On en a encore eu des exemples ces dernières années avec la politique commerciale américaine, dont on sait d'ores et déjà qu'elle se retourne contre les classes moyennes américaines. Alors,
la politique de Donald Trump, qui est plus protectionniste que celle de ses prédécesseurs.
Alors, l'avantage du protectionnisme, en revanche, c'est que, en général, ses effets délétères ne se voient pas, ou ils ne se voient pas tout de suite. Donc, politiquement, c'est quelque chose qui est assez sympa, parce que vous pouvez dire aux gens, un, je vous protège, deux, je vous protège contre les étrangers, ce qui est aussi un discours politique qui est assez facile à tenir. Et puis, comme les effets négatifs sont très diffus, comme ils mettent du temps à se matérialiser, ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Et quand c'est des gens comme moi ou comme Pierre-Henri qui tiennent ce discours, il est assez facile de dire qu'ils viennent de l'establishment, de l'élite, que c'est une élite mondialisée qui, de toute façon, pense avec sa conscience de classe et non pas avec son cerveau. Donc, vous voyez, politiquement, c'est plus simple de se faire le promoteur du protectionnisme qu'intellectuellement... Enfin, pardon de parler pour toi, hein, mais je t'embarque dans cette sale histoire. Mais c'est assez compliqué pour nous de tenir ce type de discours. Mais en même temps, bon, c'est l'éternel clivage entre les rationalistes et les sophistes. Hein. Moi, j'ai choisi mon camp. Voilà. Je sais que c'est plus difficile, c'est plus exigeant, mais je m'en accommode mieux.
Non, il y a une question qui est la question stratégique. C'est-à-dire, quelles sont les productions qui sont véritablement importantes ? Donc, c'est là où on confond les choses. Il y a un glissement. Les souverainistes disent, oui, on s'aperçoit avec les masques, on a besoin... Oui, là, c'est un autre problème. C'est quelles sont les chaînes de production dont stratégiquement nous avons besoin? Alors,
avant, il n'y avait que l'armement, maintenant il y a aussi la santé.
Oui, la santé, mais avec, il faut faire très attention, parce qu'encore une fois, la crise d'aujourd'hui ne sera pas la crise de demain. Donc, c'est aussi pas en créant une chaîne de masques tout de suite qu'on va régler le problème de la crise de demain. Donc, il faut être vigilant sur le fait qu'on ait des chaînes de production. Et c'est vrai que les imprimantes 3D permettent, par exemple, aujourd'hui des miracles sur ces questions.
Les robots.
Les robots. Donc, d'avoir des chaînes et des processus de production qui soient suffisamment, alors pardon, le mot est horrible, agile, pour être capable de faire face à ce type de situation. Et ça, je trouve que c'est une question intéressante, parce que c'est une question, effectivement, qui est une question de ce dont on a vraiment besoin, de ce dont il faut garder la chaîne complète. Ça, c'est passionnant.
Eh bien, dernière incursion dans l'économie immatérielle et mondialisée, parmi les trois chansons les plus reprises et les plus diffusées à la radio de tous les temps, il y en a une qui a été composée par un Français de 37 ans à l'époque, c'est Jacques Revaux. La chanson est devenue My Way, et une fois chantée par Sinatra, elle a fait le tour du monde, rapportant une fortune à ses ayants droit, qui vont encore se partager quelques euros, puisqu'on va l'écouter tout de suite. En tout cas, on va écouter la version de Nina Simone.
And now, the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along my way, yeah. Oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. I threw it all. My fill, my share of losing. Now, as tears subside, find it all so amusing. Do they like it all that? And may I say, not in a sly way. Not me, I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the words of one who needs. I took the blows, I did it my way.
Voilà, c'était les trois chansons sur le podium, les trois chansons les plus reprises et les plus diffusées à la radio de tous les temps. On a écouté Yesterday, on a écouté The Girl from Ipanema, et là c'était My Way, chanté par Nina Simone. On se retrouve pour la fête de cette émission juste après ça.
Frédéric Taddeï, en balade avec Nicolas Bouzou sur Europe 1.
Nous sommes avec Nicolas Bouzou et Pierre-Henri Tavoyot, toujours dans le passage de la Fonderie, un petit air de 19e siècle, aujourd'hui, dans le 11e arrondissement. On est devant une enseigne jolie, seringue et pulvérisateur. C'était chez Robert Julien. Ça doit dater d'il y a belle lurette. Ils ont conservé la façade.
C'est amusant parce que on avait tout à l'heure cette conversation entre nous sur les masques, et Pierre-Henri avant la pause et rappelait, et je suis entièrement d'accord avec ça, que la question des relocalisations, elle est compliquée, parce qu'aujourd'hui on dit on a besoin d'usines de masques,
de tests. Alors, aussi
très bien, simplement déjà ce dont on a besoin, c'est de masques, c'est pas nécessairement de produire des masques. Je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des masques et constituer des stocks de masques en les achetant au préalable. Ça, c'est la première chose.
On mais avait bon fait il y a 10 ans,
mais même à considérer que il aurait été préférable d'avoir des usines de masques pour être capable d'en produire. Rien ne nous dit que la prochaine crise, y compris la prochaine crise sanitaire, ce sera un virus respiratoire. Ce sera peut-être autre chose. Et je me disais, on aura peut-être besoin de seringues. Enfin, j'en sais rien. Personne n'en sait rien. Mais ça veut dire quelque chose d'important du point de vue économique. Ça veut dire qu'on a besoin d'une industrie, mais d'une industrie qui soit en capacité d'être extrêmement... Alors là aussi, le mot est un peu à la mode et c'est donc pénible, mais on a besoin d'une industrie résiliente. Au fond, on n'a pas besoin d'usines de masques, on a besoin d'usines capables de produire des masques. On n'a pas besoin d'usines de seringues, on a besoin d'usines capables de produire des seringues. Et donc, je suis très favorable à ce qu'on ait une politique industrielle assez globale qui nous permette de réindustrialiser notre pays, qui a subi une désindustrialisation qui a été la plus forte de tous les pays développés. Hein. Plus que le Royaume-Uni, par exemple, qu'on cite pourtant souvent en exemple de pays désindustrialisés. La France, c'est pire. Donc, on a vraiment besoin de ça. Donc, c'est une politique industrielle au niveau européen. C'est une politique de compétitivité.
Pardon de vous interrompre, ça va plus loin que ça. Nicolas Bouzou, on a entendu le patron du laboratoire pharmaceutique français Sanofi annoncer que s'il trouvait un vaccin, pas lui, mais son laboratoire, un vaccin contre le Covid-19, il servirait en priorité les États-Unis, ce qui a déclenché un tollé en France.
Bien
sûr. On s'est dit, là aussi, il faut que nos entreprises restent avec des capitaux français, parce que s'il y avait uniquement des capitaux français dans Sanofi, on ne prendrait pas ce genre de décision. Mais là encore, c'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de capitaux français dans Sanofi. Bon, sur cette histoire, je pense que la communication de Sanofi est absolument catastrophique, et même au-delà de la communication, parce que, évidemment...
Qu'est-ce qu'il avait besoin de dire ça ?
J'ai certainement pas, en tant que Français, envie de m'entendre dire que Sanofi va servir d'abord les Américains. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une erreur gravissime et difficilement pardonnable. Bon, si on essaie d'aller un peu plus loin dans l'analyse, le gouvernement et l'administration américaine ont été quand même beaucoup plus malines et pertinentes que l'administration française et que l'administration européenne. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de contracter avec un laboratoire pharmaceutique en leur disant, on vous donne de l'argent et en contrepartie, nous, on veut être absolument sûr que les Américains ils auront des vaccins. C'est quand même quelque chose qui intellectuellement n'est pas extrêmement compliqué, et on peut parfaitement imaginer que d'autres pays fassent la même chose. Et donc
on,
là,
on pourrait dire aussi qu'ils l'ont fait bien plus tôt, qu'ils ont été beaucoup plus gentils en termes de réglementation et avec l'industrie pharmaceutique que nous ont été les Français.
L'administration, c'est peut-être aussi pour ça. Non, mais l'administration Trump a été très efficace sur ce sujet. Mais avant la crise du Covid-19, il y avait eu vraiment des simplifications afin d'essayer de raccourcir les délais de mise sur le marché de nouveaux médicaments. Donc l'administration Trump était très présente sur ces sujets de façon assez efficace.
Certains diront que ça n'est pas un progrès, ça.
Pardon ?
Certains diront que ça n'est pas un progrès et qu'il ne faut pas les suivre.
Pour les Américains, en tout cas. Hein. Donc là, je veux dire, l'Europe pêche à la fois par naïveté, mais parce que aussi, elle se voit uniquement, au fond, surtout l'Union européenne. Ça change un peu, parce que dans la zone euro, en ce moment, on voit des choses intéressantes, des rapprochements de pays. Mais enfin, l'Union européenne se voit essentiellement comme un marché à défendre. Voilà. Et éventuellement comme une zone à protéger. protégés. Mais ça, c'est vraiment le maximum, on va dire, de politisation de l'Union européenne.
Même si en France, on ne facilite pas l'existence de l'industrie pharmaceutique, il y a tout de même le crédit impôt recherche dont a bénéficié Sanofi.
Oui, bien sûr, mais le crédit impôt recherche, ça marche très bien. Alors, tout le monde, c'est vraiment un très bon outil de politique économique.
Il pourrait être sympa, il nous filait des vaccins, puisqu'on leur a filé.
Je suis assez d'accord. Franchement, je suis assez d'accord avec ça. Donc, je n'ai pas de critique à formuler vis-à-vis de cette idée. La critique que je formule, en revanche, c'est que vous avez aux États-Unis une agence publique qui est organisée pour prévoir le risque épidémique et pour mettre en place une stratégie de protection des Américains, mais sanitaire, de protection sanitaire, par exemple, en développant des médicaments et en les achetant. Ça, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis et qui n'existe pas en Europe. Alors là, vous pouvez idéologiser comme vous voulez. Moi, je veux bien, on peut dire que c'est la faute de l'Europe, du libéralisme, du néolibéralisme, du libre-échange, du libre-échangisme. Il y en a même qui appellent ça comme ça, qui mélangent un peu le sentimental, le physique et l'économie. Bon, non, je veux dire, ça, c'est juste un problème d'organisation. Et peut-être quand même, et là, Pierre-Henri a beaucoup écrit là-dessus, peut-être paye-t-on aussi le fait de ne jamais avoir choisi entre une confédération d'États, c'est-à-dire des États qui ont vraiment une coopération minimale qui aujourd'hui quand même est essentiellement un marché unique, et une vraie Europe puissance qui s'organise avec des institutions supranationales dont les décisions sont... Alors une fédération, on n'ira jamais, je le regrette d'ailleurs, mais on n'ira jamais vers une fédération d'États européens, mais en tout cas vers des coopérations qui sont des coopérations dans lesquelles les décisions ne se prennent pas avec la règle de l'unanimité, mais voilà, avec des vraies décisions.
Oui, je pense que là, je suis assez d'accord avec ce dilemme, hein, qui est le dilemme qu'on vit. On verra comment l'Europe en sort. Mais c'est aussi l'idée que la mondialisation, en fait, c'est ça qui sert d'argument aux souverainistes. C'est-à-dire la mondialisation, c'est le fait de négliger notre intérêt national. Évidemment, la mondialisation, dans l'absolu, c'est pas ça. La mondialisation, c'est un terrain de jeu où, justement, il faut que chaque intérêt puisse se défendre. Et donc, si on dit que la mondialisation, c'est la fin de l'intérêt national, alors là, effectivement, je suis contre la mondialisation. Mais la considérer comme ça, c'est évidemment totalement absurde. Et c'est cette espèce d'idée que, effectivement, l'ouverture était forcément bonne. On le voit au niveau économique, on le voit aussi au niveau des frontières, au niveau migratoire. C'est le même argument, que l'ouverture est forcément bonne. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes qui sont des néolibéraux sur le plan... contre le néolibéralisme sur le plan économique, qui sont des néolibéraux sur le plan des frontières. Donc là, il y a des clivages, des bizarreries et des contradictions qui sont assez profondes. Donc, en effet, l'intérêt national, un, l'intérêt européen, deux, sont les clés de lecture de la mondialisation.
Merci Nicolas Bouzou de nous avoir emmené en balade avec vous. Merci Pierre-Henri Tavoyot de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Europe 1, 11h30, en balade avec Nicolas Bouzou, Frédéric Taddeï.